1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour un tour de la question qui s'annonce passionnant sur Europe 1, très interactif car en direct vous pouvez dès maintenant venir échanger avec nos invités, spécialistes des langages du rêve, ethnopsychiatres qui vous aident à interpréter vos rêves et vos cauchemars. Vos nuits sont-elles agitées par ces images, par ces émotions et ces scènes que vous avez vraiment le sentiment d'avoir vécues? Pour certains d'entre nous, en tout cas, nous ne sommes pas égaux face aux rêves et nous ne nous souvenons pas tous de ceci. Est-ce que vous faites des rêves d'ailleurs ou davantage de cauchemars et des cauchemars récurrents? Cette imagination débordante vous affecte-t-elle? Et comment expliquer que nous fassions parfois des rêves très étranges qu'on ressent dans sa chair? Y prêtez-vous attention. Le standard est ouvert, ma chère Julie, ainsi que les réseaux sociaux. Beaucoup de questions déjà. Hein,
le standard, c'est le 39-21, 50 centimes la minute. Les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag Europe 1.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les dreamers de tous les pays, dreamers de France, n'hésitez pas à nous appeler avec nos invités mobilisés avec nous en studio pour un sujet en effet passionnant. Toby Nathan, bonjour. Pardon, vous buviez votre café au moment où je vous salue.
Bonjour.
Psychologue, ethno-psychiatre et écrivain, vous avez notamment publié chez Odile Jacob « Les secrets de vos rêves » il y a quelques mois. Tristan Frédéric Moire, bonjour à vous. Spécialiste du langage du rêve, auteur de l'interprétation psychanalytique du rêve aux éditions de l'Archipel. D'abord, messieurs, nous rêvons tous. On est d'accord?
Oui, oui, absolument.
Et quasiment 100 minutes par nuit, des rêves et des cauchemars dont on ne se souvient pas toujours. Expliquez-nous d'abord ce distinguo entre ceux qui ont une imagination mais qui les perturbe longtemps et qui se souviennent de leurs rêves et les autres pour lesquels tout semble effacé, Toby Nathan.
Il n'y a aucune différence en fait.
Oui.
Non, c'est-à-dire que tout le monde rêve, oui, c'est évident, on l'a démontré, il n'y a aucun problème. Sauf des très très rares exceptions qui sont dues parfois à une ablation d'un fragment de cerveau,
oui,
dans un accident, par exemple. Bon, c'est très très rare. Ou ceux qui prennent certains antidépresseurs qui arrêtent les rêves, en fait. Hein. Sinon, tout le monde rêve, sans exception. Alors, ceux qui ne s'en souviennent pas, il n'y a pas une grande différence. C'est une question, je pense, de culture et d'apprentissage. Si on a appris tout petit à raconter ses rêves, on continuera à raconter ses rêves toute sa vie. Mmh. Dans des cultures où habituel, c'est même quasi obligatoire de raconter ses rêves au réveil. Tout le monde se souvient de ses rêves. Dans une culture comme la nôtre, où le rêve est quelque chose d'en plus, une sorte de scorie de la nuit, etc., à ce moment-là, on a tendance à ne pas se souvenir de ses rêves. Donc, c'est réparable.
Oui.
Et souvent, mon collègue pourra le confirmer, quand on reçoit des personnes en psychothérapie, en psychanalyse, au bout de quelques temps, l'habitude de raconter ses rêves, et ça revient en fait.
Hein. Ah, c'est pour ça que c'est une mécanique quasiment.
C'est quasiment mécanique, oui. C'est une sorte d'apprentissage. En fait. Oui.
Très juste. Voilà, merci de cette première lecture des choses. Un sujet qui est au cœur de nos vies, Tristan Frédéric Moire, que nous abordons ce matin avec une actualité d'ailleurs toute récente, puisqu'il y a une étude scientifique menée par des chercheurs finlandais, britanniques et suédois qui ont travaillé sur la formation des cauchemars. Et on en parlera avec l'hémisphère droit du cerveau et son activité qui serait liée aux cauchemars. L'hémisphère droit qui serait le siège des sentiments négatifs et de la colère. C'est-à-dire que c'est un sujet suffisamment préoccupant et passionnant pour que les chercheurs s'y penchent absolument régulièrement.
Alors la neurologie s'intéresse effectivement beaucoup au rêve et à son contenu. Là, ce que l'on peut préciser, c'est qu'effectivement la culture fait qu'on va pouvoir mieux s'intéresser à ses rêves. Il est évident que quand on consulte, on va déclencher un mécanisme d'intérêt. L'inconscient va notifier qu'effectivement le rêve a de la valeur. Alors, il y a quand même des profils qui sont particuliers, parce qu'il y a les profils sensibles, hypersensibles, et il est évident qu'un hypersensible va avoir une charge émotionnelle beaucoup plus forte. Le rêve est un temps de gestion des émotions. Mm-hmm. Les hypersensibles vont souvent ressentir davantage leurs rêves, les vivre comme des cauchemars ou pas,
oui,
puisqu'il n'y a pas de différence entre un cauchemar et un rêve, simplement c'est le contenu qui est différent. Donc le cerveau va gérer des informations, des émotions, et selon la sensibilité de la personne, ce contenu va être plus ou moins sensible et plus ou moins fort, avec une mémoire plus ou moins forte. Et on peut noter d'ailleurs que les femmes se souviennent beaucoup mieux de leurs rêves, elles s'intéressent davantage à leur contenu psychique et elles sont beaucoup plus en général en introspection que les hommes.
Quand on rêve par exemple qu'on court et qu'on ressent vraiment cette activité physique, Toby Nathan, comment on explique ce mécanisme du cerveau incroyable? On ressent des rêves vraiment dans notre chair, on en frissonne.
Oui, alors c'est-à-dire un rêve c'est comme un film quoi en fait.
Hein. Oui.
C'est un film, c'est-à-dire on projette le film, sauf que c'est pas nous le réalisateur du film, hein. On est le spectateur d'un film qui sort de nous-mêmes, en fait. C'est très étrange. Hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas conscient de produire le rêve. On est spectateur du rêve. Et c'est plus que spectateur parce qu'on y assiste avec ses yeux, beaucoup. Hein. Les yeux sont très importants dans les rêves, mais aussi avec tout son corps. Et donc, c'est pour ça qu'on ressent les sensations qui se manifestent dans le rêve, en fait. C'est comme un film, c'est une sorte de cinéma. Peut-être qu'on en fera un jour. Hein. On ressent les odeurs et on sent les mouvements de la personne qu'on voit sur l'écran. Quoi,
est-ce qu'on est plus victime ou acteur en général dans nos rêves, dans nos cauchemars?
On est toujours victime. On est très rarement acteur de son rêve. On est toujours spectateur du rêve. Victime. Les rêves sont pas toujours désagréables.
Non, hein. Non, absolument.
Ils sont majoritairement désagréables. Hein, vous savez ça. Hein. Mm-hmm. 80% des rêves sont des rêves désagréables en fait. Hein. Donc, mais il y a une raison à ça. Hein. On est toujours, en tout cas, passif dans le rêve. On reçoit le rêve. Et c'est très rarement, on est dans le rêve. Et parfois, on a conscience de faire son propre rêve. Mais c'est exceptionnel. C'est des rêveurs très particuliers. Et certains rêveurs même sont capables de diriger leurs rêves. Hein.
C'est incroyable.
Et donc ça, c'est des rêveurs très particuliers, ce qu'on appelle les rêves lucides.
Oui.
Et ces rêveurs-là, d'ailleurs, sont utilisés par les laboratoires qui travaillent sur les rêves, les laboratoires de neurologie, pour explorer le fonctionnement du rêve, en fait.
Ça veut dire quoi, plus précisément, avec un exemple de rêve lucide, Tristan Frédéric Moir?
Alors c'est une induction, le rêve lucide, c'est-à-dire qu'on cherche à agir sur le contenu latent du rêve pour produire des images spécifiques. Alors effectivement, on peut se stimuler, on peut se programmer le soir à induire un thème, à reprendre ce thème dans le rêve et parfois même à pouvoir agir sur le contenu. Donc sortir de la position passive pour entrer dans la position active.
Mais, on est vraiment réalisateur. Hein.
Voilà, mais donc ça n'a pas grand intérêt puisque ce qui est important surtout, à mon avis, dans le rêve, c'est le message qu'il nous transmet.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que ce n'est plus le moi, effectivement, qui est aux commandes, c'est l'inconscient.
Mm-hmm.
Donc c'est une charge énorme, c'est une dimension énorme qui nous transmet des messages qui concernent notre vécu, qui concerne à la fois nos blocages et nos potentiels.
Ça veut dire qu'on est en situation de lâcher prise quand même dans un rêve ou dans un cauchemar?
En principe oui, puisque si on est passif, alors je ne sais pas si la charge est toujours négative, j'ai l'impression que c'est plutôt équivalent.
Oui.
Ça dépend, parce que dans un rêve, il y a vraiment les deux. Il y a le positif et il y a le négatif.
Ouais, qui nous fait réfléchir en tout cas sur les circonstances du moment, sur notre présence aussi au monde à ce moment-là, au présent, avec cette imagination débordante, plus débordante chez certains d'entre nous. On en parle avec Toby Nathan, avec Tristan Frédéric Moir et avec déjà beaucoup d'auditeurs au standard, Anne-Marie, Micheline, Josiane. On va vous donner la parole à tout de suite au 3921.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Mais que se passe-t-il quand nous dormons? On parle des rêves et des cauchemars ce matin avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et à quel moment rêve-t-on justement, Toby Nathan, psychologue, ethnopsychiatre, et Tristan Frédéric Moir, spécialiste du langage du rêve, auteur de l'interprétation psychanalytique du rêve. Si on dort peu, est-ce qu'on a moins de chances de faire des rêves et des cauchemars? Pour reprendre ma question préalable.
Ça tombe sous le sens. Hein. C'est-à-dire qu'on rêve au bout de à peu près une heure de sommeil, en
d'accord.
fait. Hein. Donc, si vous dormez peu, eh ben, vous rêvez moins, puisque le sommeil comporte des cycles. Sauf qu'on sait maintenant, depuis assez peu, en fait, depuis une dizaine d'années, on pensait qu'on rêvait que durant le sommeil paradoxal.
Oui.
C'est-à-dire, il y a un moment du rêve, il faut peut-être expliquer ce que c'est, le sommeil paradoxal,
un petit mot.
C'est-à-dire que dans le sommeil, on descend dans le sommeil. Hein. C'est comme si on plongeait au fond de l'eau. Quoi, On descend progressivement, il y a différents niveaux. Et tout notre corps s'endort, notre esprit s'endort, tout se déconnecte en quelque sorte. Et à un moment donné, au moment où on est le plus profond dans le sommeil, tout est déconnecté. À ce moment-là, il y a trois organes qui se réveillent. Il y a le cerveau qui se réveille, les yeux qui se mettent à bouger. Et c'est très bizarre. Hein. Le sexe aussi qui se réveille. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'on rêve quand on a une érection. En fait, une érection pour l'homme et pour la femme. Hein. Je veux dire, c'est les deux. Hein? C'est-à-dire que ça s'accompagne nécessairement, c'est dans ces moments-là où on fait les rêves les plus intenses, les plus animés, etc. Mais depuis quelques temps, depuis une dizaine d'années, on a fait des analyses sur toute la durée du sommeil et on s'est rendu compte qu'on rêve tout au long de la nuit, en fait, hein, à certains moments, y compris dans les moments qui ne sont pas des moments de sommeil paradoxal. Il reste néanmoins que ces moments de sommeil paradoxal, qui sont un sommeil très très particulier, durant ce sommeil, c'est là qu'on fait les rêves les plus intenses, les plus complexes, et ceux dont on se souvient, en fait, au réveil, proviennent du moment de sommeil paradoxal. D'ailleurs, il faut savoir que le sommeil paradoxal, c'est le moment qui précède le réveil, en fait, hein.
Donc c'est pour ça qu'on s'en souvient, parfois certains nous réveillent, on se réveille avec nos rêves.
Exactement.
Ouais. Voilà. Y a des rêves de circonstances. Micheline nous écrit, Tristan, Frédéric Moire de Paris, je rêve que je pars en vacances et que j'oublie mes bagages. Et je fais ce rêve très souvent, ça m'interpelle. Je voudrais savoir à quoi ce rêve correspond.
C'est plutôt positif.
Oui.
Puisque les bagages correspondent, si ce sont des valises par exemple, ça correspond au poids du passé. Donc quand la rêveuse débraye, c'est bien qu'elle oublie ses soucis, c'est bien qu'elle oublie ses charges coutumières et qu'elle parte libre.
Oui. Il y a des rêves aussi de profession, vous l'avez eu, qui sont très liés aussi à notre environnement quotidien, Julie. Hein.
Oui, bien sûr.
On rêve qu'on n'arrive pas à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Moi, je fais souvent un rêve, c'est que je suis à l'antenne, ma voix ne sort pas, je ne peux plus parler, et puis les notes que j'ai écrites sur mes feuilles disparaissent. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que je lis, ça devient blanc. Voilà, ça veut dire quoi, docteur?
Consulter Wendy. Hein.
Non, mais ça, par exemple, c'est un stress lié au travail, peut-être.
C'est des rêves qui sont très connus. Hein. C'est-à-dire que c'est quand on s'entraîne aux catastrophes,
c'est
en fait.
Ah, oui, d'accord.
On s'entraîne aux catastrophes pour que, si elles arrivent, on soit déjà équipé, en quelque sorte. Plus vous faites des rêves comme ça, plus vous êtes bonne à l'antenne. Hein.
Oui, c'est vrai. Que...
Ce sont des rêves de gestion d'émotions négatives, effectivement, qui permettent de gérer les situations, tout à fait.
D'accord, y compris quand on est dans des spectacles de guerre, cauchemardesques, on va en parler avec
ces cauchemars
récurrents qui sont un peu lourds.
Ça, c'est différent. Les rêves de conflit sont en général liés au vécu de l'enfant qui a assisté au conflit des parents.
Ah, au conflit des parents, donc, ou au conflit environnemental.
Mais souvent, ce sont les parents qui vont marquer le plus le psychisme de l'enfant, et les rêves de guerre, de conflit, sont en général des réminiscences de conflits vécus que les parents ont fait devant l'enfant.
Ah, très intéressant, voilà, le poids du passé. Anne-Marie, Josiane, Michel, Isabelle, je vous donne la parole tout de suite. Pardonnez-moi, je voulais poser un petit peu les enjeux avec nos invités spécialistes qui vous répondent dans un instant.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La question Facebook du jour, prêtez-vous attention à vos rêves et cauchemars? Oui, à 54%, donc c'est presque moitié-moitié.
Ouais.
Quelques petits commentaires. Lucie nous dit, je suis persuadée que nos rêves veulent dire quelque chose, sinon pourquoi en ferait-on?
Ah, c'est une interprétation, Tristan Frédéric Moire, qui doit vous réjouir. Hein.
Spécialiste du langage du rêve. C'est une affirmation.
Oui.
Effectivement, on parlait tout à l'heure des cycles du sommeil. Pendant le temps du sommeil paradoxal, c'est là que vont se produire les rêves qui vont rester le plus en mémoire. Et principalement, donc, les rêves d'émergence, qui sont, que je considère comme des rêves messages. C'est-à-dire que si on s'en souvient, c'est que ça a du sens.
Mm-hmm.
Et donc, c'est dommage de ne pas traiter ce matériel quand on s'en souvient. Et faire interpréter un rêve, c'est toujours important parce que ça nous concerne. Le rêve parle de nous, le rêve parle de notre réalité, parle de notre dimension intérieure, de nos projections. Et donc, quand on analyse ce contenu, on met la personne vraiment en relation avec elle-même.
Est-ce que les rêves très absurdes ont un sens, malgré tout, un sens caché? Toby Nathan, si vous voulez bien, pardon, parce que je fais mille choses à la fois, je laisse Josiane raconter son rêve et vous interprétez derrière peut-être aussi. Bonjour Josiane.
Oui, bonjour.
Je parlais de rêve absurde, oui. Ou étonnant, en tout cas.
Non, un beau rêve, en fait.
Mais un beau rêve.
Je vais essayer de raccourcir l'histoire, parce que là, quand je rêve, je regarde pas la montre. Hein. Donc, on est en vacances en Thaïlande, et il y a une inondation. Et on est au bord d'un fleuve, comme ça. Et là, on ne réussit pas à traverser de l'autre côté. Et un éléphant arrive, et il a comme un parasol, où on peut s'installer la famille dedans, et il nous fait traverser la rivière. Voilà.
Bah, c'est l'éléphant qui vous sauve d'une inondation.
C'est ça.
Et vous êtes partie en Thaïlande dans votre vie, Josiane?
Non, c'est certainement les infos à la télé, quand je vois des
Le tsunami.
Le tsunami.
Le tsunami.
Qui me perturbe. perturbe, voilà.
Oui, alors Toby Nathan, par exemple, intéressant ce rêve de
Oui, oui, mais je veux dire, moi, je ne sais pas bien interpréter les rêves si je ne peux pas parler un peu avec la personne.
Ah oui, bah allez-y.
Alors, oui, alors je voulais savoir pourquoi elle pense à un éléphant. Est-ce que elle a
aucune idée, non, vraiment.
Pardon.
Aucune idée. Aucune idée. Comment cet éléphant est apparu dans mon rêve. Ouais. Ça, j'en ai aucune idée. Non, non, j'ai pas de relation avec des animaux comme ça. À part quand je vais voir dans un zoo,
mais bien sûr.
C'est tout quoi.
Et votre famille, c'est qui votre famille?
Ben, c'est mes enfants et mes petits enfants.
Vous en avez beaucoup?
Ben, j'ai seulement un fils, une fille et trois petits-enfants.
Et trois petits-enfants.
Et
leur famille aussi, non? Ils sont mariés?
Oui, mes enfants sont mariés, donc, puisque j'ai des petits-enfants.
Et vous?
Oui.
Et vous aussi? Oui. Vous avez un mari aussi, non?
Je suis divorcée depuis 25 ans.
Ah, c'est ça. Ouais. Ah, voilà, donc, il y a une question autour de votre divorce, non?
Non, c'est plutôt moi qui suis maintenant le pilier de la famille, en fait.
Ah, c'est ça, voilà.
Voilà.
Donc, si vous portez tout sur votre dos, quoi.
Oui,
on va dire ça comme
ça. Donc, c'est un peu Josiane qui joue le rôle de l'éléphant.
Oui, je pense que c'est une histoire comme ça. C'est que vous avez
Je pense que c'est moi l'éléphant.
Oui, c'est ça. Bon, je crois qu'on
a.
Je crois qu'on s'est bien compris. Et que c'est vous qui portez tout le monde sur le dos.
Ouais.
Voilà, vous avez vu juste là.
Bravo. Voilà. Merci. Merci, Josiane, de cet appel et de votre lecture, Toby Nathan. Anne-Marie est avec nous au 3921. Bonjour, Anne-Marie.
Oui, bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour vos intervenants.
Pardon, Tristan, vous pouvez interpréter, bien sûr. Donnez-nous votre interprétation.
Alors, sur le rêve de Josiane.
Oui, sur le rêve de Josiane.
Donc, rapidement, il y a une peur du passage du temps qui est signifiée.
Oui.
Une très forte émotivité qui est liée à ça.
Oui.
Et il y a une recherche de spiritualité, mais avec des antagonismes. Donc là, la rêveuse, effectivement, là, il y a besoin de l'interview, il y a besoin de parler avec elle.
Oui.
Mais dans ce rêve, il y a une recherche. La peur du passage du temps l'induit dans une angoisse. Qui veut lui donner du sens. Et elle recherche le sens, la sagesse que représente l'éléphant. Donc ça peut aussi la représenter, bien entendu. Hein.
Mmh.
Mais il y a quelque chose qui la protège, elle a peur. Donc il y a une ambiguïté qu'elle aurait besoin de démêler.
Avant d'accueillir Josiane, nous avons Joyce qui nous écrit qu'elle se réveille avec des crises d'angoisse et avec des cauchemars terribles, des nuits qui ne sont pas du tout réparatrices et des cauchemars récurrents, scènes de guerre, imperturbablement. Alors vous parliez tout à l'heure des conflits l'un et l'autre liés à l'enfance qui peuvent expliquer aussi cela. Mais il y a d'autres explications, Toby Nathan, à ces cauchemars terribles et quasiment chroniques.
Donc si c'est chronique comme ça, si ça se répète, si c'est aussi intense, c'est que là vraiment il faut s'alarmer quoi. Hein.
Mmh.
Un cauchemar de temps en temps, c'est pas grave.
Oui, mais toutes les nuits.
Mais toutes les nuits, toutes les nuits, c'est une catastrophe. Hein. C'est que là il y a vraiment urgence. Hein. Mais souvent, en tout cas déjà souvent, c'est une question. Hein. C'est une vraie question. Et là il faut regarder parce que ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être un désordre de nature physiologique hein, qui s'annonce, mais ça peut aussi être et ça ressemble dans ce que vous dites. Mais je vous dis, je ne peux pas interpréter le rêve de quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas possible.
Un peu de généralité.
Mais en tout cas, je peux vous dire que ça ressemble à des rêves traumatiques en fait. C'est quelqu'un qui a été mis dans des situations de violence, de conflits violents. Actuel, hein, pas dans l'enfance, hein, actuel, et que ce traumatisme, on va dire les choses telles qu'on les pense réellement, ce traumatisme n'est pas résorbé, et donc le rêve tente à chaque fois de le résorber, et c'est pour ça qu'il se répète sans cesse.
Et c'est pour ça qu'il est sain de cauchemarder et de rêver, y compris dans ces situations-là, justement, pour essayer de retrouver un équilibre, Tristan Frédéric Moi.
Pas comme le dit Toby Nathan, il est surtout sain d'aller voir pourquoi on fait ce type de rêve, à quel traumatisme il correspond.
Qui on va voir? On peut aller vous voir, par exemple?
Bien sûr, oui, puisque c'est ce que je traite.
Oui.
Là, effectivement, il y a un traumatisme qui doit correspondre à une sensibilité de la personne, à une faille dans sa construction qu'elle a besoin de voir et qui doit être réactivée par des éléments actuels.
C'est-à-dire, il y a quelle méthode aujourd'hui pour essayer de mettre le doigt sur ce qui ne va pas et surtout pour résoudre et pour apaiser un peu les nuits? Vous avez des méthodes particulières?
Par la connaissance du langage du rêve, on va voir quelles sont les images, les symboles qui sont produits.
Oui.
Et on va travailler sur ces images et donc travailler en interview, effectivement faire associer après la personne par rapport à ce qu'elle voit, sachant quand même que chaque symbole, chaque image a une valeur très particulière qui, quand elle est mise dans un contexte précis, a un sens très fort.
D'accord. Et en faisant interpréter aussi ces cauchemars ou ces rêves à la personne, vous pouvez l'en décharger un peu du poids.
Voilà, c'est exactement ce qui va se produire. Là, ça se voit très bien chez les jeunes qui me consultent, qui ont entre 12 et 16 ans. c'est le moment où ils accueillent le plus facilement les informations que va véhiculer le rêve.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas de blocage, mais par contre, le rêve, l'interprétation du rêve, va permettre de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et c'est ça qui est important, c'est de gérer le ressenti, les émotions de la personne qui rêve, de la permettre de gérer ces informations pour comprendre logiquement. C'est-à-dire que, je le répète, le rêve est un moment de gestion d'émotions très très fort. Et quand on arrive à traiter de façon logique, donc avec son cerveau gauche, les émotions qui viennent du cerveau droit, on arrive à gérer, à relativiser, à comprendre, donc à se développer beaucoup plus harmonieusement.
Tristan Frédéric Moire, qui est spécialiste du langage du rêve, est avec nous, ainsi que Tommy Nathan, ethnopsychiatre, psychologue, auteur des secrets de vos rêves. On fait une petite pause avec beaucoup d'auditeurs qui témoignent qu'ils ne se souviennent jamais de leurs rêves, ni de leurs cauchemars d'ailleurs. Ils me demandent si c'est grave. Anne-Marie va réagir, ainsi que Catherine. Rémi, énormément d'appels au standard. On va essayer de vous répondre le plus précisément possible. À tout de suite sur Europe 1. Cette chanson sur le rêve par cœur.
Beverly Brothers.
Brothers, absolument.
Right. Chaque fois que j'ai envie de toi, bah je rêve.
Bah voilà.
Voilà la traduction de cette chanson.
Et le langage des rêves en question avec l'onirologie, c'est cette science du langage du rêve que vous représentez, Tristan Frédéric Moire, qui est avec nous, auteur de l'interprétation psychanalytique du rêve, avec Toby Nathan, notre autre invité psychologue et ethnopsychiatre et auteur des secrets de vos rêves. Nous sommes, messieurs, avec Anne-Marie au 39-21. Bonjour Anne-Marie, pour interpréter ces rêves.
Bonjour Wendy, bonjour à tous. Bonjour.
Alors, on vous écoute, chère Anne-Marie, le temps de dire que le rêve est indispensable à notre équilibre mental, que tout le monde rêve et que nous ne sommes pas forcément tous réceptifs aux messages envoyés, ni à son interprétation, à leur interprétation. Est-ce que vous êtes une grande rêveuse ou est-ce que vous faites beaucoup de cauchemars, vous, Anne-Marie ?
Les deux. Suivant les circonstances. Hein, donc, mais j'ai toujours beaucoup rêvé. Et puis, bon, aussi, il y a des cauchemars un peu récurrents qui viennent. Mais là, le sujet, c'est un rêve.
Oui.
Et c'est un rêve relativement agréable et qui revient donc souvent et qui m'intrigue. Voilà, donc j'ai trois grands-enfants, je n'ai pas de petits-enfants, je ne pense pas être en passe d'en avoir un jour, voilà. Et par contre, je fais un rêve très souvent que j'ai dans mes bras un petit-enfant. Alors, souvent c'est un bébé. Ça peut être un enfant un petit peu plus grand. Ce n'est jamais un enfant qui marche. C'est toujours un enfant que je porte dans mes bras, je suis au milieu d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui me procure énormément de bonheur, de joie. Et voilà, mais je ne sais pas pourquoi. Donc je vous dis, je n'ai aucun de mes enfants qui a lui-même des enfants.
Pour
donc,
l'instant,
pourquoi
Tristan Frédéric Moire, comment interpréter ce rêve assez récurrent d'Anne-Marie ?
Alors d'abord, il doit y avoir un aspect compensateur, puisqu'il y a certainement un désir d'être grand-mère, et puis de revivre ses joies de porter un enfant. Second plan, il y a des projets, puisque en rêve, l'enfant, la gestation, représente un projet qui est en cours. Mais là, la rêveuse le précise, ça ne marche pas. Il y a donc des choses qui n'aboutissent pas, et il y a un sentiment d'impuissance. Donc le rêve apporte à la fois des éléments de satisfaction, de compensation, par rapport au fait de se retrouver comme une maman, mais la rêveuse aurait peut-être besoin de voir pourquoi ce qu'elle entreprend, qui apparemment arrive à démarrer, ne va pas jusqu'au bout. Pourquoi elle n'arrive pas à finaliser ses projets, pourquoi ça ne marche pas.
Vous avez parlé à vos enfants, j'imagine, Anne-Marie, de ce rêve un peu récurrent.
Non, j'ai pas parlé de ce rêve parce que je crois avoir, je crois savoir que aucun de mes enfants ne désire avoir des enfants.
Oui.
Par contre, moi, je vous parlais de projet. Mmh. Je vais vous dire, moi, maintenant, j'ai pas de projet. Voilà, j'ai pas de projet parce que je suis divorcée après 32 ans de bons et loyaux services conjugaux, et j'ai eu un divorce très long, 5 ans, et très douloureux. Et
Anne-Marie, là, justement, effectivement, vous notifiez ce qui ne fonctionne pas.
Oui.
Donc là, vous le notifiez, ce ne sont peut-être plus des projets actuels, mais vous avez encore quelque part un fonctionnement qui voudrait que ça fonctionne. Et notamment, vous voudriez être grand-mère. Là aussi, le rêve a un aspect compensateur.
Oui. Merci Anne-Marie pour ces premières lectures et ces images fortes dans lesquelles vous vous retrouvez peut-être, amis auditeurs. Nous avons Catherine au standard et vous allez pouvoir réagir. Toby Nathan à ce qu'elle nous dit. Catherine, depuis la Vallée de Chevreuse. Bonjour Catherine.
Oui, bonjour.
Alors, vous vouliez nous parler, vous, de vos rêves, de vos cauchemars?
Moi, de mes cauchemars, je me souviens pas de mes rêves,
oui.
Mais j'ai fait très souvent des cauchemars, et ce, depuis toute petite. Et donc, quand j'étais petite, ce qui m'a fait réagir, c'est effectivement le fait d'induire des rêves. Je savais pas que ça se faisait, mais c'est ce que je faisais quand j'étais petite, en termes de protection. Comme je savais que j'allais faire des cauchemars et je voulais pas dormir, je me forçais à penser à des choses agréables,
oui.
Pour pouvoir m'endormir en me disant que j'allais peut-être faire un rêve et pas un cauchemar. Et donc, ça arrivait. Et quand je faisais des cauchemars, comme j'en faisais régulièrement et j'en fais encore très régulièrement, je me réveillais, en fait je me disais, il faut que je me réveille, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, il faut que je me réveille. Et donc je me réveillais de mes cauchemars en me forçant à me réveiller parce que c'était tellement
dur,
horrible que oui. Je voulais pas continuer.
Et là aujourd'hui, aujourd'hui ça va mieux ?
Alors je fais, petite mais pendant très longtemps, et toute adolescente, même jeune femme, je fais des cauchemars toutes les nuits, quasiment toutes les nuits. Mmh. Maintenant ça va mieux, j'en fais moins.
Lesquels demande Tristan, Frédéric Moir ? Quel genre ?
J'en veux. Alors j'avais soit des cauchemars qui étaient très sanglants, avec beaucoup de sang, de violence, soit j'avais des cauchemars où je rentrais chez moi et il y avait des têtes de renards partout, ma mère n'était plus ma mère mais c'était une tête de mort, enfin des choses qui étaient vraiment dures, et pourtant j'ai eu une enfance super heureuse.
Et puis vous sentiez bien, vous aviez une vie agréable, etc., hein, au quotidien.
Ah tout à fait, tout oui. À fait, moi j'ai eu peu de conflits, j'ai pas subi de violence. Je suis dans un très bel environnement, enfin agréable. Mais c'était vraiment plutôt ce que je ressentais moi. Et aujourd'hui encore, je fais de nombreux cauchemars qui me réveillent la nuit. Je suis très angoissée, donc je me rendors pas après parce que je veux pas retomber dans les cauchemars. Ce que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je me rendors et je retombe dans mon cauchemar.
Mmh. Bah alors Catherine, j'aimerais que Toby Nathan vous réponde un petit peu sur à la fois cet aspect très, très serein dans la vie. Catherine va bien, elle vit agréablement, etc. Et ses nuits sont tellement différentes de ce qu'elle vit le jour, avec ses terreurs, avec ses cauchemars réguliers qui ont commencé à l'enfance.
Mais Catherine, est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez subi des violences ?
Non, aucunement.
Pardon ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Et est-ce que vous avez été confronté à des gens qui étaient particulièrement autoritaires, par exemple ?
Non.
Non ?
C'est
vraiment des cauchemars qui sont produits par vous-même, quoi.
C'est ça.
Et ça depuis l'enfance, en fait, hein ?
Oui. Ça a toujours été ça. J'ai toujours une appréhension à l'idée de m'endormir, parce que c'est pour ça que je dors tard et très mal et très peu.
Ah oui.
Parce que je veux pas retourner
dans cet état-là.
Voilà. Oui, ouais. Mais ça a commencé tôt.
Je me rappelle encore de mes cauchemars quand j'avais 6-7 ans. Oui.
6-7 ans.
6-7 ans. Mmh. Ça a commencé vers 6-7 ans. Et ouais. Il s'est passé quelque chose dans votre famille à ce moment-là, non ?
Pas dont je me souvienne. Rien qui m'ait marqué suffisamment pour m'en souvenir aujourd'hui.
Un déménagement, peut-être ?
Non, ça a été plus tard, le déménagement.
C'était quand, le déménagement ?
J'avais une dizaine d'années, 8 ans, je pense.
Ouais.
Alors, le déménagement a accentué les cauchemars. Ça,
j'en avais beaucoup dans le lieu
où je vivais, avec des attaques, des choses comme ça.
C'est ça. Et votre environnement a brutalement changé, c'est ça?
Brutalement. Alors, ce qu'on appelle brutalement quand on a 6 ans. En fait, je suis restée dans la même ville. J'étais à la même école. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on change d'environnement quand on est petit, ça
c'est peut... C'est ça. Et donc, il y a eu des moments où vous êtes senti insécure, comme ça, c'est ça? Et pas tout à fait à l'aise, quoi, dans votre existence.
Sans doute. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est rien par rapport à la violence de ces cauchemars.
Oui, c'est ça, les cauchemars sont extrêmement violents, hein.
Mais on sent votre progression intellectuelle, Toby Nathan, juste parce qu'il faut faire une petite pause. Tristan, Frédéric Moir, vous rejoignez l'interprétation
ici. Alors,
ce
qu'on peut noter quand on écoute la personne, c'est une angoisse par rapport au contenu même des cauchemars. Là, il est possible que la personne soit d'un profil hypersensible. C'est-à-dire qu'elle reçoit les informations et les gère de façon différente que la plupart des personnes et ressentent tout de façon exacerbée. Ce qu'on a pu noter aussi, c'est ce besoin de parler que la personne exprime. Donc là, je ne vois pas pourquoi vous ne consulteriez pas, parce que vous avez un besoin énorme de consulter. Vous n'osez pas parler du contenu. Là, j'ai noté notamment qu'il y a une perte d'énergie avec le sang. Vous avez des pertes d'énergie qui sont liées à ce contenu émotionnel.
Oui, du sang, des têtes coupées, oui.
Voilà, le sang, c'est l'énergie. Donc, s'il y a du sang partout, c'est qu'il y a des pertes.
Oui.
Il y a des peurs qui sont marquées que vous avez besoin de gérer. Donc, vous avez besoin de tenir vraiment compte de votre nature. Vous êtes hypersensible, apparemment. Et vous avez besoin de parler.
Et bien voilà, Catherine, vous avez commencé à le faire sur cette antenne. Vous avez été écoutée, donc poursuivez aussi cet échange, voilà, pour vous comprendre davantage, car comprendre ses rêves, c'est peut-être se connaître un peu mieux soi-même. Toby Nathan et Tristan Frédéric Moir, on fait encore le tour de ce sujet jusqu'à 11h. Merci de vos appels très nombreux au Standard d'Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La question Facebook, c'était « Prêtez-vous attention à vos rêves et cauchemars ». Et là, il faut vraiment que je vous lise le petit message de Julien. « Je n'ai pas le temps de rêver ». Alors, est-ce que c'est poétique simplement ou est-ce que c'est possible
Tristan, Frédéric Moir et Toby Nathan.
Alors, il est évident que quelqu'un qui est hyperactif, un homme, est moins enclin à se souvenir de ses rêves. Hein. Donc effectivement, si ce monsieur n'a pas le temps de rêver, c'est qu'effectivement, il est accaparé par le réel, ce qu'il considère être le réel, et qu'il s'engouffre dedans. Donc dès qu'il se réveille, au lieu de tenir compte de son baromètre, l'érection, puisqu'effectivement, comme disait Toby Nathan, chaque fois que nous rêvons, nous sommes en érection. Au lieu de tenir compte de ça, il va sauter dans ses obligations, son désir de vie, et peut-être qu'il est vraiment très très bien. Puisque souvent, quand on ne se souvient pas de ses rêves, c'est que soit on est en phase dans
c'est
sa
ça,
vie,
on est en phase, oui.
Ou alors on est dans un processus de censure parce que le contenu est trop dérangeant.
Quand on a une période où on ne se souvient pas des rêves, en effet, et que tout d'un coup un rêve ou un cauchemar revient, c'est qu'il faut analyser cette petite rupture qui peut être liée à un déménagement, à un changement de vie. Il faut être très à l'écoute, finalement, de ce que notre inconscient nous dit.
Alors, pas trop, mais noter au moins un rêve par semaine, ça c'est vraiment important, et essayer de savoir ce qu'il veut dire, ça c'est utile.
Vous pouvez, une fois qu'on vous a consulté l'un et l'autre, nous donner les clés pour essayer de mieux interpréter justement ces rêves-là, d'autant plus s'ils sont récurrents d'ailleurs, s'ils signifient quelque chose de fort. Alors, c'est-à-dire mieux nous connaître en connaissant nos rêves, on peut le faire aussi personnellement.
C'est plus difficile parce que le langage du rêve est codé. Le langage du rêve est quand même mensonger dans sa forme première. Donc là, c'est ce qu'on appelle la corne d'ivoire, c'est-à-dire que dans la mythologie, on considérait qu'il y avait deux types de rêves. Il y avait les rêves de la porte de la corne et les rêves de la porte de l'ivoire. Les rêves de la porte de la corne, c'est ceux qui disent la vérité, qui prédisent le futur. Prédire le futur, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est savoir ce qui se passe dans notre vie au moment présent et comment le passé peut interférer dans notre réalité. Donc, la porte d'ivoire, c'est les rêves mensongers. C'est-à-dire ceux qui se présentent effectivement comme des mensonges. Ils ne correspondent à rien. Mais le rêve dit toujours les choses de façon analogique et va toujours prendre des détours pour échapper à la censure du surmoi.
Je vais vous lire le rêve de Léa de Versailles. Un rêve qu'elle faisait plus petite, mais très régulièrement. Elle s'avance vers un canyon. Plus ça se resserre, plus elle devenait petite et parfois des oreillers venaient la serrer. Sa maman lui a dit qu'elle était née par forceps. Et une fois qu'elle a eu sa fille, elle n'a plus jamais fait ce rêve à nouveau. Et elle aimerait savoir ce que vous en pensez, Tristan Frédéric.
Alors effectivement, il y a une mise en scène qui est celle du sexe féminin, le canyon. Et il y a un souvenir traumatique qui a pu disparaître. La charge négative accumulée dans son psychisme a pu se libérer au moment où elle est devenue elle-même mère et qu'elle a mis autre chose en place.
Ouais, très intéressant. Est-ce qu'on peut dire, Toby Nathan, que nos rêves sont l'expérience de la pensée quand on dort? d'une certaine manière.
Ah ben c'est absolument, mais c'est un autre type de pensée. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'intérêt du rêve, de plus en plus, on se rend compte que c'est un intérêt cognitif, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une façon de chercher des solutions qu'on n'a pas, qu'on n'arrive pas à trouver dans la vie éveillée, en fait. Hein. Donc, les rêves font des sortes redistribuent les cartes, parce qu'on a, des habitudes de pensée. Dans le rêve, ces habitudes de pensée sont fracturées, mm-hmm. et on rebat les cartes, on redispose les choses autrement, et on fait des plans nouveaux. C'est pour ça que être attentif à ses rêves peut donner des pistes nouvelles, surtout quand on est coincé. Cela dit, le rêve, normalement, accomplit sa fonction sans qu'on l'interprète. Hein. C'est quand on bute sur un problème qu'il est indispensable d'interpréter les rêves. Oui. Sinon, normalement, un rêve accomplit sa fonction, on se réveille et puis tout va bien, je veux dire. C'est comme ça la vie normale. Hein.
Dominique et Sylviane ont des questions pour vous juste après la pause. Toby Nathan et Tristan Frédéric Moir, auteur aux éditions Marie-Claire, de Mieux se connaître grâce à ses rêves, justement, voilà, qui vous en dira davantage. À tout de suite.
Dernière partie de l'émission consacrée aux rêves et aux cauchemars. Comment ils nous racontent? Et est-ce qu'ils sont liés forcément aux émotions de la journée?
En partie, Tristan Frédéric, moi?
Oui, le rêve utilise beaucoup le matériel résonant qui s'est produit dans la journée ou les jours précédents. Mais si on rêve de quelque chose, c'est que c'est en résonance vraiment avec un élément intérieur. Si on a vu un cheval dans la journée et qu'on en rêve, c'est que ça représente quelque chose pour nous. Mm-hmm. Parce qu'on ne rêve pas de tout ce que l'on a vu. Mais le rêve fait feu de tout bois et se sert du matériel présent de façon la plus intense. Il va essayer de nous communiquer des choses parce que quand on a vu une forme qui est symbolique, elle va entrer en résonance et donc elle va réveiller quelque chose chez nous, elle va vibrer émotionnellement.
Il y a des rêves qu'on peut considérer un peu anecdotiques mais qui ont certainement beaucoup de sens. Dominique nous écrit qu'il fait un rêve de manière récurrente, il mâche un chewing-gum mais il n'arrive pas à l'enlever, il reste collé à ses dents. Donc bon, il y a la symbolique des dents dont on parle assez régulièrement. Comment vous interprétez ça?
Alors là, il y a deux angles, puisque effectivement, les dents, c'est un thème, c'est le lieu commun des rêves. Mmh. Tout le monde rêve de problèmes de dents,
de
perte ses dents, ouais. Que les dents sont friables, qu'elles se déchaussent. Mmh. Les rêves de perte de dents, dans la tradition populaire, sont liés à des décès.
Oui.
Ça peut être un peu ça. Simplement, le rêve signale que nous avons une perte de vitalité parce qu'on est en état de stress. Oui. Et que donc, nos défenses sont atteintes. Les dents, c'est fait pour mordre dans la vie. Et donc, dès qu'il y a des problèmes qui sont signifiés, quand on voit des dents qui sont abîmées en rêve, ça veut dire qu'on met notre vitalité en danger par du surménage, par exemple.
D'accord.
Et qu'à long terme, ce qui risque de se produire, c'est qu'on va perdre nos dents.
C'est une usure.
Voilà, c'est plus qu'une usure, c'est une dégradation. Puisque là, si vous regardez, par exemple, les tableaux d'autrefois, à partir de 35 ans, les gens ne sourient plus parce qu'ils n'ont plus de dents.
Oui.
Parce qu'on n'avait pas de dentiste à l'époque. Mmh. Et effectivement, les dents étaient attaquées très rapidement. Le chewing-gum peut représenter des choses que l'on rabâche, que l'on répète, et donc des choses qui n'arrivent pas à se sortir. Donc là, le besoin de parler et de consulter est évident. La personne a besoin de faire sortir des choses qu'elle n'arrive pas à avaler, déjà d'une part, parce qu'un chewing-gum, ça ne s'avale pas, et qu'elle n'est pas à cracher non plus. Donc, si elle ne peut pas le faire dans le réel, avec un spécialiste, ce serait peut-être mieux.
Quel crédit
c'est
vous portez?
C'est fou ce qu'on peut lire dans le chewing-gum.
Ah, c'est génial.
Vous ne verrez plus de la même manière maintenant.
Non. Quel crédit vous portez-vous, Toby Nathan, aux rêves qu'on dit prémonitoires, avec des images comme ça, un peu des flashs?
Je pense que tous les rêves sont prémonitoires. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est... Puisque c'était ce que je vous disais, le rêve fait des plans sur l'avenir. Mm-hmm. Donc forcément, ils contiennent une sorte de prévision, voire avant. Quoi.
Mais qui se réalise ou pas?
Ben, on fait en sorte qu'il se réalise, puisque c'est nous-mêmes, on fait un plan, en fait. On fait un plan. Mmh. Et donc, c'est un plan, on est en train de... C'est, en fait, dans un rêve, on fait une sorte de brouillon du lendemain. C'est-à-dire qu'on est en train de se dire, ben, demain, je vais affronter tel problème. Et donc, on est en train de fabriquer un plan pour le lendemain. Donc, ils sont tous un peu prémonitoires, en quelque sorte. Il y en a qui tombent pile... Et on se dit, on a été informés de quelque chose d'incroyable, surtout quand il ne s'agit pas de nous. C'est-à-dire, on rêve d'un accident et l'accident se produit, pas pour nous, pour quelqu'un d'autre. Et ça, ces rêves-là, qui sont faits pour quelqu'un d'autre, c'est des rêves extrêmement intéressants. Moi, je pense qu'il faut y attacher une importance toute particulière. Mmh. Il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. C'est des choses importantes. C'est-à-dire que dans les rêves, il n'y a pas que soi.
Oui, absolument.
Il n'y a pas que soi. Il y a aussi, on rêve pour des gens aussi.
Oui, pour des gens et pas forcément de notre entourage.
Oui, exactement. On rêve pour des gens et parfois des gens qui sont éloignés de nous, en fait. Hein.
Mais parfois, on rêve de gens très proches, comme Wendy, c'est rare d'avoir une Wendy au standard, qui nous dit qu'elle fait souvent un rêve un peu étrange. Elle rêve de sa petite fille, qui a 2 ans et demi, qui est adulte au moment où elle rêve, qui tombe dans un puits, et au moment où elle saute pour la rattraper, leurs doigts se touchent, mais un rideau se met entre leurs doigts, et donc elle ne peut jamais la sauver. Elle a 2 ans et demi, cette petite fille, alors est-ce que c'est un rêve qu'on appelle pour décompenser justement une situation de crise, de drame, d'horreur, Tristan?
Alors effectivement, parce que ça sollicite l'instinct maternel, mais il est possible que cet instinct maternel soit trop fort. Le puits peut représenter l'utérus, et qu'il y ait une tendance chez cette maman à vouloir garder son enfant dans son ventre. Et donc, il y a quelque chose de divin avec les doigts qui se toucheraient, il y a la notion de la toute-puissance de la mère, et elle a peur d'elle-même. Et donc le rêve l'avertit, attention, effectivement, l'enfant doit se séparer et il y a besoin du tiers séparateur qui est le père, pour que effectivement l'enfant puisse devenir un individu à part entière.
Ça, c'est très intéressant, on aurait pu consacrer bien d'autres heures à ce tour de la question, mais on y reviendra, messieurs, j'en suis sûr. Les secrets de vos rêves, Toby Nathan chez Odile Jacob et Tristan Frédéric Moire, mieux se connaître grâce à ses rêves aux éditions Marie-Claire. Merci beaucoup messieurs et à vous, chers amis auditeurs, pour ces messages multiples. On a fait une belle petite consultation.
Merci Wendy, merci Julie.
Beaucoup.
À lundi, on sera là le lundi de Pâques.
Ah,
hein,
on sera là lundi, les amis.
Bon week-end.
Merci.
Wendy Bouchard sur Europe 1.